VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h, temps universel. Bonjour à tous. Au Burundi, l'ONU a dénoncé aujourd'hui l'existence de massacres ethniques, de charniers avec une centaine de cadavres et de viols collectifs. Le Burundi, vous le savez, est plongé depuis fin avril dans une grave crise politique. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad Al Hussein, a averti que tous les signaux d'alarme, y compris celui d'une dimension de plus en plus ethnique de la crise burundaise, sont en train de virer au rouge, ajoutant qu'un effondrement complet de l'ordre public est imminent. De nombreux parents des plus de 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria ont à nouveau réclamé leur libération hier lors d'une rencontre avec le président Muhammadu Buhari, John Lydon.
Quelques 300 manifestants, dont plusieurs étaient en larmes, ont marché dans les rues d'Abuja avant d'être amenés en bus à la présidence pour une audience avec le président Buhari. Au terme de l'entretien qui s'est déroulé à huis clos, l'ancienne ministre de l'Éducation, Obi Ezekwelili, à la tête du mouvement Bring Back Our Girls, a déclaré que M. Buhari avait dit avoir besoin de plus de temps pour retrouver et libérer les jeunes filles kidnappées. Le président nigérien avait déjà dit qu'il était prêt à négocier avec n'importe quel membre crédible de Boko Haram pour obtenir la libération de ces lycéennes. Au moins 276 jeunes filles avaient été enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram à Chibok dans l'état de Borno. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper, mais on est toujours sans nouvelles du reste.
En Somalie, des témoins dans la région de Gedo signalent qu'Al-Shabaab a attaqué une base militaire de l'Union africaine près de la localité d'El Adé. L'attaque serait, pense-t-on, un attentat suicide à la bombe perpétré très tôt ce matin et qui a été suivi d'une fusillade impliquant les troupes kenyanes stationnées dans cette base. On ne sait pas si les troupes de l'Union africaine contrôlent toujours la base. Aussi, l'attaque a fait des victimes. En Italie, Cheikh Tidiane Diaw, un jeune Sénégalais âgé de 27 ans, a été arrêté hier à Florence. Il est accusé du meurtre d'une Américaine, Ashley Hodson, qui a été retrouvée morte vendredi dans son appartement. Cette mort a attiré l'attention des médias, surtout après le meurtre en 2007 de l'étudiant britannique Meredith Kershaw à Pérouse, non loin de Florence. Le jeune Sénégalais a admis à la police avoir tué l'Américaine par accident après une dispute. L'émotion et l'angoisse sont vives parmi les immigrés, d'autant que 4 Sénégalais avaient été déjà assassinés en Italie. On écoute Alassane Sidi, un responsable de l'association des Sénégalais en Italie.
On se rappelle de ce qui s'est passé il n'y a même pas 4 ans, quand un Italien avait froidement assassiné 3-4 Sénégalais. Et en ce coup, cela avait quand même soulevé un tollé. Les communautés étrangères, tous réunis, quand même, avaient dénoncé vigoureusement cet acte. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu ce retour de bâton en quelque sorte. Aujourd'hui, ce sont les étrangers, en particulier les Sénégalais, qui sont pointés du doigt. Et cela aussi n'arrange pas les choses ici en Italie, dans la mesure où, depuis quelques années, il y a ce problème de la droite qui essaie de gagner du terrain. On parle beaucoup des immigrés, de la violence, de la clandestinité. Ça devient une nouvelle tache noire qui vient quand même s'ajouter par rapport à tout ce qui a été dit de négatif pour l'immigration.
Alassane Sidi, un responsable de l'association des Sénégalais à Milan, en Italie. En Gambie, la directive officielle qui imposait depuis le début de l'année aux femmes employées dans l'administration de se couvrir la tête a été abandonnée. Cette décision avait été prise en décembre dernier par le président Yahya Jammeh en proclamant son pays État islamique. Melis Egel.
Un État islamique qui respecte les droits des citoyens, c'est ce qu'avait déclaré le président Yahya Jammeh en décembre lors d'une réunion publique, en annonçant qu'il n'y aurait aucune incidence sur la minorité chrétienne. Suite à cela, il avait appelé le personnel féminin à ne plus montrer ses cheveux pendant les heures de travail dans les services publics. Mais aujourd'hui, il revient sur sa décision et décide de l'abandonner, sous prétexte que les femmes sont, je cite, « les meilleures amies du président et qu'il tenait à leur bien-être ». Il ajoute également qu'exiger le port du foulard n'a rien à voir avec la religion. Yahya Jammeh est au pouvoir en Gambie, pays anglophone enclavé dans le territoire du Sénégal, depuis un coup d'État datant de 1994. Il est élu en 96, puis réélu 3 fois. Ses détracteurs lui reprochent souvent des décisions unilatérales et des déclarations fracassantes, notamment sur d'autres pays, les migrants ou encore l'homosexualité.
En Sierra Leone, les responsables sanitaires enquêtent sur un décès suspect d'Ebola dans le nord du pays après qu'un premier prélèvement a été testé positif à ce virus jeudi. Cette annonce intervient quelques heures seulement après la proclamation par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avec l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission au Libéria comme dans l'ensemble de la région. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le porte-parole du gouvernement sierra-léonais, Abdoulaye Bérété, et un haut responsable du ministère de la Santé ayant requis l'anonymat ont fait état à l'AFP d'un décès suspect d'Ebola dans la ville de Makburaka, située dans le district septentrional de Tonkokili.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, vif échange entre Donald Trump et son plus proche rival Ted Cruz. Oui, les principaux candidats à l'investiture du Parti républicain ont eu un autre débat télévisé hier en Caroline du Sud, l'un des États clés où se tiendra l'une des premières consultations de 2016. Les primaires commencent dans 3 semaines dans l'Iowa. Ils ont ouvert les hostilités par des attaques contre l'homme qu'ils espèrent remplacer, le président Barack Obama. Ils n'ont pas oublié non plus Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine, qui mène dans les sondages côté démocrate. Donald Trump, le favori républicain, a défendu ses propositions controversées sur la sécurité à la frontière, position qualifiée de discriminatoire contre les Mexicains et les musulmans. Michelle Obama va-t-elle se présenter aux élections présidentielles américaines? Son époux en a catégoriquement rejeté l'idée. Anastasie Toudiech.
Alors que Barack Obama entame sa dernière année à la Maison-Blanche, des voix s'élèvent pour sonder à nouveau une éventuelle candidature de la première dame. Cette dernière a pourtant fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'était pas intéressée par un quelconque mandat électif. Mais voilà, la cote de popularité de Madame Obama est exceptionnelle et l'exemple des Clinton très présent dans les esprits. Après les deux mandats de Bill, en 1993 et en 2001, Hillary est aujourd'hui en lice dans le camp démocrate pour l'élection de novembre 2016. Interrogée hier à Baton Rouge, en Louisiane, dans le sud des États-Unis, sur une éventuelle candidature de son épouse à la présidence, Barack Obama a répondu « Il y a 3 choses certaines dans la vie, la mort, les impôts et le fait que Michelle ne sera pas candidate ». Lorsqu'il quittera la Maison-Blanche le 20 janvier 2017, Barack Obama aura 55 ans, Michelle Obama en aura 53.
Le gouvernement turc a annoncé hier avoir riposté à l'attentat suicide qui a tué 10 touristes allemands à Istanbul en bombardant en Syrie et en Irak plusieurs centaines de cibles du groupe État islamique accusé d'avoir piloté le kamikaze. 2 jours après l'attaque qui a visé pour la première fois en Turquie des étrangers, le premier ministre Ahmet Davutoğlu a dévoilé que l'artillerie turque avait visé en 48 heures près de 500 positions de Daesh, l'acronyme arabe de l'État islamique, en représailles au lâche attentat d'Istanbul. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres, âgé de 92 ans, se remettait aujourd'hui d'un accident cardiaque mineur survenu à la veille, se trouvait dans un état excellent après son opération, a dit son médecin. Shimon Peres a été hospitalisé hier et opéré après avoir été pris de douleur à la poitrine. À 92 ans, M. Peres est resté particulièrement actif à travers son centre Peres pour la paix qui promeut la coexistence pacifique entre juifs et arabes. La police indonésienne était en alerte maximale vendredi au lendemain d'attentats meurtriers dans le centre de Jakarta revendiqués par l'organisation État islamique et dont plusieurs assaillants abattus ont été identifiés. Alors que les investigations se poursuivent, 5 individus avaient déclenché des attaques à l'aide d'explosifs et d'armes à feu, sémant le chaos pendant plusieurs heures dans le quartier de Tamrin, qui abrite des centres commerciaux, des gratte-ciels et les bureaux de plusieurs agences de l'ONU ainsi que des ambassades, notamment de France. 2 civils sont morts et les 5 assaillants, pour certains kamikazes, ont été tués. Et puis, retour donc sur l'avertissement de l'ONU au Burundi. L'ONU a dénoncé l'existence de massacres ethniques de charniers avec 100 de cadavres et de viols collectifs. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a averti que tous les signaux d'alarme, y compris celui d'une dimension de plus en plus ethnique de la crise, sont en train de virer au rouge, ajoutant qu'un effondrement complet de l'ordre public est imminent au Burundi. Fin de ce journal, Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal avec Henri Francisque, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.